Henri Poincaré, dernière pensée. Chapitre 2, l'espace et le temps. Une des raisons qui m'ont déterminé à revenir sur une des questions d'expérience, sans doute, mais sans nous être imposés par l'expérience, de telle sorte que, une fois constituée, elle est à l'abri de toute révision, elle est hors d'atteinte de nouveaux assauts de l'expérience. Et cependant, les expériences sur lesquelles est fondée la mécanique nouvelle possèdent... Quelle expérience faisons-nous ? Nous plaçons dans son voisinage des objets qu'il convoite, et nous regardons s'il sait faire sans tâtonnement les mouvements qui lui permettent de les atteindre. Et comment voyons-nous que les autres hommes sont doués de ce précieux sens de l'espace ? C'est parce qu'eux aussi, ils sont capables de contracter leurs muscles, à propos, pour atteindre les objets dont la présence est mouvement. Il nous suffit de nous les représenter. Ce sens de l'espace que l'intelligence serait impuissante à exprimer ne pourrait être que je ne sais quelle force qui résiderait dans le tréfonds de l'inconscient. Et alors cette force ne pourrait nous être connue que par les actes qu'elle provoque. Et ces actes, ce sont précisément les mouvements dont je viens de parler. Le sens de l'espace se réduit et dans quelle mesure l'espace est-il relatif? Il est clair que si tous les objets qui nous entourent et notre corps lui-même, ainsi que nos instruments de mesure, étaient transportés dans une autre région de l'espace, sans que leur distance mutuelle varie, nous ne nous en apercevrions pas. Et c'est en effet seulement du rapport de deux grandeurs, du rapport de deux distances. Mais il y a plus. Supposons que tous les objets soient déformés suivant une certaine loi, plus compliquée que les précédentes, suivant une loi tout à fait quelconque, et qu'en même temps nos instruments de mesure soient déformés suivant la même loi. De cela non plus, si notre instrument s'est oui ou non déplacé à la façon d'un solide invariable, puisque dans ce cas, les indications en question n'ont pas changé. Nos instruments comportent aussi des lunettes avec lesquelles nous faisons des visées, de sorte qu'on peut dire que le rayon lumineux est aussi un de nos instruments. Notre intuition de l'espace nous en apprendra-t-elle davantage? Nous venons de voir qu'elle se réduit à une association constante entre certaines sensations et certains mouvements. C'est dire que les membres est notre premier instrument de mesure. Comme les autres, il se compose de plusieurs pièces solides, mobiles les unes par rapport aux autres. Et certaines sensations nous avertissent des déplacements relatifs de ces pièces, de sorte que, comme dans le cas des instruments artificiels, nous savons si notre corps s'est oui ou non déplacé comme un solide invariable. En résumé, nos instruments, ce que l'enfant doit à la nature, ce que le savant doit à son génie, ont comme élément fondamental sans rigidité, qui peut s'appliquer à tout. Il n'a pas de propriété à lui. Faire de la géométrie, c'est étudier les propriétés de nos instruments, c'est-à-dire du corps solide. Mais alors, comme nos instruments sont imparfaits, la géométrie devrait se modifier, peu différente de celle auxquels obéissent réellement nos instruments, mais beaucoup plus simples, des lois qui ne régissent effectivement aucun objet naturel, mais qui sont concevables pour l'esprit. En ce sens, la géométrie est une convention, une sorte de côte mal taillée entre notre amour de la simplicité et notre désir de ne pas trop nous écarter de ce que nous apprennent nos instruments. Cette convention définit à la fois l'espace et l'instrument parfait. Ce que nous avons dit de l'espace s'applique au temps. Je ne veux pas parler ici du temps tel que le conçoivent les disciples de Bergson, de cette durée qui, loin d'être une pure quantité exempte de toute qualité, est pour ainsi dire, elle a dû jouer ce rôle qu'en subissant une transformation profonde, qu'en se spatialisant, comme dit Bergson. Il a fallu en effet qu'elle devînt mesurable. Ce qui ne se mesure pas ne peut. Il est impuissant à classer deux phénomènes psychologiques qui ont pour théâtre deux consciences différentes, ou a fortiori deux phénomènes physiques. Un événement se passe sur la Terre, un autre sur Sirius. Comment saurons-nous si le premier est antérieur? Si elle est envisagée au premier point de vue, et physique si elle l'est au second. Vous voyez tout de suite que la relativité physique est beaucoup plus restreinte que la relativité psychologique. Nous avons dit par exemple que rien ne serait changé si on multipliait toutes les longueurs par une même constante, pourvu que la multiplication portât à la fois sur tous les objets et tous les instruments, et ce désaccord apparut embarrassant à bien des philosophes. Examinons la question d'un peu plus près. Toutes les parties du monde sont solidaires, et quelque loin que soit Sirius, il n'est sans doute pas absolument sans action des changements d'axe dont nous avons parlé. Mais il n'en est pas de même des équations finies. Les changements d'axe nous obligeraient en effet à changer les constantes d'intégration. Le principe de relativité ne s'applique donc pas aux équations finies directement observées, mais aux équations différentielles. Or, comment peut-on passer des équations finies aux équations différentielles dont elles sont les intégrales? Il faut connaître plusieurs intégrales particulières, différant les unes des autres par les valeurs attribuées aux constantes d'intégration, puis éliminer ces constantes d'intégration. Une seule visée, car l'univers n'est tiré qu'à un seul exemplaire. Et c'est là une première difficulté. De plus, en vertu de la relativité psychologique de l'espace, nous ne pouvons observer que ce que nos instruments peuvent mesurer. Ils nous donneront par exemple les distances des astres, ou des divers corps que nous avons à considérer. Ils ne nous donneront pas leurs coordonnées par rapport à des axes fixes ou mobiles, qui n'ont qu'une existence purement conventionnelle. Si nos équations contiennent ces coordonnées, c'est par une fiction qui peut être commode, mais qui n'est qu'une fiction. Si nous voulons que nos équations traduisent directement ce que nous observons, il faudra que les distances figurent parmi nos variables indépendantes. Et alors, il arrivera que les autres variables disparaîtront d'elles-mêmes. Ce sera là notre principe de relativité.